Bonjour à tous. Donc effectivement, nous continuons, nous terminons notre étude de l'épître aux Colossiens. Et nous arrivons donc au chapitre 4. Et on va lire les versets 2 à 6. On se passera on n'étudiera pas les tout derniers chapitres qui sont des salutations de Paul à différentes personnes. Donc je vais lire dans ma traduction du Semeur, à partir du verset 2. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Ce texte, c'est un encouragement à prier. Et ce matin, si je vous dis, il faut prier c'est bien. Si je me contente de ça, alors d'une part, il y a de bonnes chances que vous le sachiez déjà et que ça vous apporte pas grand-chose. Mais ce texte nous encourage à prier et nous explique comment il faut le faire et nous explique aussi quelles conséquences ça a, la prière, et quels effets elle a dans le monde et dans nos vies. Alors c'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble ce matin pour que le Seigneur puisse travailler dans nos cœurs et nous aide à prendre conscience de ce que la prière peut changer en nous et de la façon dont Dieu peut se servir de cette prière. Paul commence en nous disant que la prière soutienne votre persévérance. Il y a d'autres traductions qui disent persévérer dans la prière. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de prier. Il y a la prière, peut-être la prière du soir, où on dépose au pied de Dieu tous nos soucis. La prière du matin, où on s'apprête à affronter la journée et on demande à Dieu de nous aider. Les prières où on est confronté à des difficultés, on va lui demander de l'aide. Plein de façons de prier. Et on peut avoir l'impression que la prière, c'est un peu comme faire un pas de côté dans le flot de notre vie, où on rame dans les différentes situations auxquelles on est confronté. Et par moment, voilà, on prend un moment pour prier, et on se met de côté et on prend un temps avec Dieu. C'est une réalité qui existe et on peut la vivre. Mais quand le texte nous dit que la prière soutienne votre persévérance, il nous place sur un autre plan. Et il nous dit que la prière, c'est pas se mettre de côté, c'est au contraire se plonger dans notre situation et s'y plonger non pas avec notre force, mais avec la force de Dieu, pour reprendre l'image du bateau, c'est remplacer nos rames par un moteur qui va nous aider à remonter le courant. Parce que souvent, notre vie chrétienne, notre persévérance dans la vie chrétienne, c'est de savoir remonter le courant. Et la prière, c'est le moteur qui va nous aider à le faire. Quand on parle de prière, évidemment, c'est la prière que le Seigneur nous a enseignée, qui nous vient à l'esprit. Et quand on repense à cette prière, la première chose qui saute aux yeux, c'est que cette prière, elle replace Dieu au centre. Et je pense que à travers ce qu'on va voir, c'est effectivement le premier effet de la prière. C'est de replacer Dieu au centre de notre vie, au centre de nos préoccupations, au centre de nos objectifs, au centre de nos moyens, au centre de notre espérance. Et Paul continue en nous disant « Soyez vigilants ». Le terme qu'il emploie, c'est un terme qui est le même que celui qu'on emploie pour le soldat qui monte la garde, qui surveille l'ennemi qui approche. Et la prière, c'est vrai, la prière c'est un combat. La prière, c'est une façon d'être attentif au danger qui menace notre persévérance, notre vie avec Dieu. Les trois dangers qui j'en cite trois parce que c'est comme ça que je les comprends, mais les trois dangers que je vois dans cette vigilance, c'est d'abord le fait de nous mettre nous au centre. Je l'ai dit, la prière, c'est la prière du Notre Père, elle place Dieu au centre. Le premier danger qui nous menace, c'est d'oublier que Dieu est au centre et de nous mettre nous-mêmes au centre. C'est le péché originel, c'est celui qui nous menace, c'est celui qui nous attire jour après jour et contre lequel on doit lutter. Je ne peux pas vivre la vie que Dieu attend de moi en me plaçant au centre. C'est forcément Dieu qui doit être au centre de mes pensées et de mes espoirs. La prière lutte contre cette première tendance. Une deuxième tendance, c'est de minimiser le péché. Dans la prière du Notre Père, on se rappelle que nous devons demander pardon pour le péché. Le péché qui nous agresse, contre lequel on lutte jour après jour, auquel on cède parfois, notre vie nous pousse à minimiser la gravité de ce péché. La prière nous rappelle que le péché, c'est une rupture de la relation à Dieu et que nous devons être vigilants à ne pas nous laisser attacher, à ne pas nous laisser entraîner dans ce qui nous sépare et dans ce qui nous éloigne de Dieu. Le troisième danger, c'est de perdre de vue le plan de Dieu. Et c'est ce qu'on va essayer d'étudier un petit peu, parce que c'est ce dont Paul va parler ensuite. Perdre de vue le plan de Dieu. On a tous des vies plus ou moins stressantes, mais notre monde nous pousse, nous donne des objectifs, nous donne une direction dans laquelle on poursuit notre propre satisfaction. C'est la nature de l'homme, c'est la nature de notre société, de nous satisfaire, de rechercher le plaisir. Et en faisant ça, on perd de vue que le plan de Dieu, pour nous, c'est pas la recherche du plaisir. Le plan de Dieu pour nous, c'est le salut. Non seulement de vivre le salut, mais aussi d'apporter le salut. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Et si on ne prie pas, ce plan de Dieu quitte notre cœur, quitte notre pensée. Et la vigilance dans la prière sert à nous rappeler pourquoi nous sommes là. En préparant ce message, ça a été l'occasion pour moi de me demander comment est-ce que je prie. Je me considère pas comme étant un homme de prière. Il y a des gens qu'on connaît qui témoignent d'une assiduité, d'une persévérance dans la prière. Et moi, j'avoue que je ne pense pas en être là. Mais quand j'ai regardé comment je prie, et je prie, je pense un petit peu comme vous, un petit peu tout le temps, alors plus ou moins suivant les périodes dans ma vie, suivant ma relation à Dieu qui fluctue, mais en faisant une espèce de petit bilan, je me suis dit bon alors comment est-ce que je prie, qu'est-ce que je dis à Dieu dans mes prières. Et la première chose me vient à l'esprit, c'est la première chose, je pense, que je dis à Dieu, c'est probablement aide-moi, qui revient la plupart du temps au début de mes prières, c'est aide-moi. Une deuxième chose qui revient, c'est pardonne-moi. Une troisième chose qui est présente aussi, c'est merci. Et puis peut-être en quatrième position, quand j'ai peur pour moi, pour ma famille, pour ceux qui me sont proches, pour mon église, c'est protège. Et ce texte m'a montré que il y avait probablement des priorités que je devais revoir dans ma vie de prière. Un point qui est quand même bon, c'est que j'arrive à dire merci. Et la première chose dont Paul nous parle dans cet encouragement à la prière, c'est soyez plein de reconnaissance envers Dieu. Ce matin, on a pas mal chanté. On a chanté Toi qui dispose, qui est une prière ou un chant où on dit merci. Paul, dans sa prière, a répété merci pour la création, pour tout ce que tu fais. Dans nos cultes, en règle générale, on loue Dieu pour le salut qu'il nous a apporté. Dans notre vie de prière de tous les jours, et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire souvent quand on prie le soir avec les enfants, on commence par faire ça, on commence par dire merci. Merci pour la journée, merci pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est effectivement un bon départ. Un bon départ parce que arriver à dire merci à Dieu, c'est la première façon de changer déjà notre regard, de changer notre regard sur notre vie, changer notre regard sur notre situation, la nôtre, celle de notre pays. Remercier Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne, ouvrir les yeux sur sa grâce, reconnaître que nous sommes dépendants de lui, reconnaître sa bonté envers nous. Les Français, on est un peuple de râleurs, pas une nouveauté de dire ça. On est généralement super critique. En ce moment, c'est les élections, donc on a bien vu combien on arrive à être critique par rapport à ceux qui sont aux commandes. Dans notre vie avec Dieu, il faut qu'on apprenne à quitter ce regard négatif, je veux dire comme ça. On doit apprendre à voir combien il nous a donné, combien on est riche de ses bénédictions. C'est la première étape, dire merci, s'approcher de Dieu dans une démarche d'humilité. Quand on dit merci, ça peut être, pour beaucoup, dire merci, c'est une humiliation, parce que ça reconnaît qu'on a reçu quelque chose. Mais avec Dieu, c'est une démarche qui est fondamentale de recevoir, de reconnaître que nous recevons et que nous sommes dépendants de sa bénédiction. En regardant donc la façon dont je priais, je me suis rendu compte que il y avait un peu trop de moi. D'accord ? Aide-moi, pardonne-moi. Alors ces choses-là sont bonnes, mais dans ce que Paul nous encourage à faire ce matin, ça commence pas par mes difficultés. Ça commence par intercède. Demande à Dieu d'intervenir dans la vie de quelqu'un d'autre. Dans les versets précédents, dans ce que Daniel nous a partagé la semaine dernière, on nous a parlé de rôles différents, de catégories de personnes différentes, les femmes et les maris, les enfants et les parents, les esclaves et les maîtres. Chacun a une place et un rôle à jouer. Il y a des ministères différents, il y a d'autres textes qui nous parlent du corps de Christ avec chaque membre qui le compose et qui sont différents. Quand Paul parle à chacun de ces groupes, il parle en faisant une une différence, évidemment. Chaque groupe a une fonction, a des devoirs qui sont différents. Et il s'adresse à chacun de ces groupes d'une façon qui met en avant sa responsabilité dans ce qu'il a à faire. Les femmes d'être soumises, les maris d'aimer, les enfants d'obéir, les parents d'encourager, les esclaves de servir avec zèle, les maîtres d'être justes. Chacun a quelque chose à faire, et Paul encourage chacun à s'engager dans ce qui est devant lui. Ce qui est intéressant, c'est de constater que dans tous ces rôles, eh bien, le Christ est présent. Dans tous ces rôles, le Christ est le modèle. C'est pour ça que, le péché, le monde, enferme dans les rôles, enferme dans une case et domine, contraint, force à y rester. Et la réaction normale à ce genre de contrainte, c'est de vouloir s'en libérer. L'histoire de notre société, c'est des luttes, d'accord, pour se libérer des prisons, des carcans dans lesquels les individus sont enfermés. Et c'est vrai depuis quelques siècles. Notre histoire européenne, occidentale, est une libération de ces différents carcans. Ce que Paul nous enseigne là, c'est que un rôle n'est pas nécessairement un carcan et une prison, mais c'est l'occasion de manifester l'identité de Christ, d'accepter et de porter la charge que Dieu donne à celui qui est dans telle ou telle position. C'est merveilleux de voir que, une fois de plus, chacune de ces positions est l'occasion de manifester la personne de Christ. Que ce soit dans la soumission, parce que Christ lui-même nous a donné l'exemple de la soumission. Que ce soit dans l'amour, parce que Christ nous a donné l'exemple de l'amour parfait qui va jusqu'à donner sa vie. Que ce soit dans l'exemple du service, Christ a été le serviteur parfait qui a lavé les pieds de ses disciples et qui nous a montré comment être grand dans le service. Que ce soit dans la justice, parce que Christ est celui qui rend justice et qui la manifeste. Donc dans chacun de ces rôles, c'est l'occasion d'entrer dans ce que Dieu met devant nous pour le pratiquer, de le faire avec une pleine liberté, avec une pleine volonté, en ayant conscience que c'est notre devoir. Alors, Paul emploie ce mot « devoir ». Et une fois de plus, c'est pas un carcan, c'est pas une prison, mais c'est l'occasion d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a fait et ce à quoi Dieu nous destine. Alors, pour revenir au texte qui nous occupe, Paul, là, demande de prier pour que... Alors, il dit pour nous, je pense qu'il fait référence à lui, à ses collaborateurs, à tous ceux qui sont engagés dans le ministère de l'annonce et de la proclamation de la bonne nouvelle. Je disais tout à l'heure que la prière, c'est l'occasion de prendre conscience du plan de Dieu. Là, Paul nous dit que Dieu nous donne l'occasion d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. Ce plan est caché aux hommes. Le texte nous dit, c'est un secret, quelque chose que les hommes ne comprennent pas, ne connaissent pas. Et le plan de Dieu, c'est de révéler ce secret, de révéler le Christ. C'est ça le plan de Dieu pour le monde. Que le monde connaisse le secret de la vie, le secret du salut, le secret qui fait que chaque homme peut comprendre pourquoi il est là, et où il va, et comment il peut acquérir cette vie qui lui manque. Paul demande des occasions. En faisant ça, il reconnaît, eh bien, il reconnaît d'abord sa dépendance à Dieu. Il reconnaît que il a besoin que ce soit Dieu qui ouvre les portes, qui lui donne les moments et les moyens pour pouvoir proclamer, annoncer. Là, Paul est dans son rôle de prédicateur, de docteur, qui concerne pas chacun d'entre nous. On n'est pas tous appelés à annoncer et proclamer. C'est une façon de partager qui est particulière. On va venir tout à l'heure à ce qui concerne chacun d'entre nous, mais là, c'est un ministère qui est à part. Alors, quand on prie pour ce genre de ministère, eh bien, et qu'on fait ça au début de sa prière. Quand on prend du temps pour prier, pour l'annonce et la proclamation de l'évangile fait par d'autres, on prend le temps de rentrer dans ce plan de Dieu qui s'accomplit depuis, depuis le début de l'humanité. Paul demande à ce que il puisse annoncer clairement. Il nous dit que je puisse faire connaître clairement ce message comme c'est mon devoir de le faire. Clairement. On peut penser que le message du Christ est un message simple. C'est une bonne nouvelle qui est simple à annoncer, simple à comprendre. Et effectivement, parfois, des hommes ont compris presque immédiatement ou de façon très rapide et très simple et se sont engagés sur une seule parole. On peut penser au brigand sur la croix qui a répondu d'une façon très brève à la personne, à l'appel de Christ, et sa réponse très simple a suffi. Pourtant, et donc en pensant que ce message est simple, on peut se dire que bien effectivement parfois les théologiens peut-être se prennent un peu trop la tête, que les docteurs coupent les cheveux en quatre et obscurcissent le message. Pourtant, l'histoire de l'Église nous montre que la clarté du message, sa simplicité, sa puissance, sa force, ça a été un combat depuis le début de l'Église. On a fait un vendredi dernier, on avait une réunion de partage ici, pendant laquelle on a pu un petit peu évoquer tout ça. Mais l'histoire de l'Église est une lutte pour affirmer la clarté justement de ce message. Affirmer, eh bien d'abord la divinité de Christ, sa divinité, son humanité. Affirmer qui est le Christ, ce qu'il représente. Une lutte aussi pour affirmer qu'est-ce que c'est que le salut, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Comment est-ce que les hommes peuvent être au bénéfice de cette croix? Au bénéfice de ce sacrifice, toutes ces notions-là, elles ont besoin d'être travaillées, d'être affinées, d'être exprimées dans les mots que chaque peuple et chaque société peut comprendre. On a lu la profession de foi des églises KF, qui est une façon de clarifier la position à laquelle on en est, ce qu'on a compris de la personne de Dieu, de la personne de Christ, de son salut, du rôle de l'Église là-dedans. La clarté du message, c'est un combat, et c'est là aussi c'est une vigilance qu'on doit avoir, parce que il faut pas se tromper. C'est les idées qui changent le monde. C'est la puissance de la parole qui transforme les sociétés. On peut avoir l'impression que ce qui conduit le monde, c'est la force et la puissance. Et en faisant ça, je pense qu'on se tromperait. Parce que ce qui transforme le monde, c'est les idées et la façon dont elles sont assimilé par les peuples. Et il y a énormément d'exemples de ça. Le christianisme, l'espérance chrétienne s'est propagée à travers toute l'Europe parce que les peuples avaient été prêts à recevoir cette espérance alors que eux-mêmes étaient dans la désespérance et tout le système ancien était en train de s'écrouler, les systèmes de pensée devenaient s'affaiblissaient, et c'est la puissance de la pensée chrétienne, de ce message qui a transformé l'Europe. Si l'islam a réussi à percer au VIe siècle au Moyen-Orient, c'est parce que la doctrine chrétienne s'était affaiblie. Si le message de l'islam et la façon dont il a présenté Dieu et la façon de lui plaire, si cette pensée-là a pu grandir et croître, c'est parce que les chrétiens qui étaient à cet endroit-là avaient abandonné l'espérance et la puissance du message de Christ. Il n'y a pas longtemps, Barack Obama, alors je peux parler d'un politicien parce qu'il est loin de chez nous. Barack Obama a dit que c'est pas parce que on a un marteau efficace ou un marteau puissant que chaque problème est un clou. Et les Américains se rendent compte que effectivement l'armée, la puissance militaire américaine qui a été utilisée beaucoup ces dernières années, elle a tapé sur des clous. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que les problèmes, eux, sont toujours là. La puissance militaire, clairement, n'a pas réussi à régler les problèmes. La seule chose qui transforme le monde, c'est les idées. Et c'est notre responsabilité de chrétiens que de transmettre ce message d'espérance, ce message d'amour, ce message donne aux hommes la solution pour leur vie. Après avoir prié pour les autres, pour l'accomplissement du plan de Dieu à travers le ministère de ceux qui nous entourent, Paul arrive à quelque chose qui nous concerne chacun, et toujours dans le même ordre d'idées, et il nous parle de la sagesse dont nous avons besoin dans nos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. On est tous chrétiens depuis pas mal de temps ici. Je pense qu'on a tous eu l'occasion de se rendre compte qu'on a besoin de discernement pour savoir comment et quand parler de notre foi. On a besoin de cette sagesse pour pas parler à tort et à travers. C'est le propre, je dirais, du nouveau converti que d'en parler à tout bout de champ et à propos et hors de propos. Paul nous rappelle qu'on a besoin de sagesse pour pouvoir le faire. On a besoin de sagesse et on a aussi besoin de courage. Utiliser les occasions, toutes les occasions, quand elles se présentent. Avec l'âge, on acquiert plus de discernement sur ce qu'on peut dire et à quel moment. Je suis pas sûr qu'on acquiert plus de courage. Je pense qu'on doit, en tout cas, je le prends pour moi, de me rappeler que discerner les moments, c'est bien, mais avoir le courage de saisir même le plus petit, c'est mieux. Et il termine ce passage en nous parlant de la façon dont notre parole sort de notre bouche, et nous dit que votre parole soit empreinte de grâce et de saveur. Il y a un mot qui est pas que Paul n'utilise pas là. J'en ai déjà parlé un petit peu avant, mais il ne dit pas que votre parole soit empreinte de puissance. Et je pense que c'est pas pour rien que ce que ce mot n'est pas là. Il nous parle de grâce et de saveur, et pas de puissance. On est tous, en tout cas, alors tous peut-être pas, mais en tout cas beaucoup sont fascinés par les super-héros dans notre actuellement là. Hein, vous avez vu, hein, il y a chaque mois il y a un film de super-héros qui sort. Moi, quand j'étais jeune, je lisais les comics avec les Superman et autres X-Men, etc. Ce qui était intéressant dans ces super-héros, c'est que souvent, donc, ils utilisent leur puissance pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et souvent, cette utilisation de puissance se retourne contre eux. Souvent, ça règle pas les problèmes. Ils se retrouvent tout le temps plongés dans des difficultés, dans des problèmes de conscience, etc. Donc, c'est un univers intéressant à regarder. Dieu ne met pas sa puissance en avant. C'est pas la première chose qu'il met en avant. Il le fait, parfois, mais c'est seulement parfois. La façon dont Dieu se manifeste à travers nous, c'est par la grâce et par la saveur de ce que nous avons à partager. Et je pense que ceux qui nous disent que c'est d'abord la puissance de Dieu qu'il faut rechercher dans notre vie et nos relations, je pense qu'ils se trompent. Parce que Dieu nous demande d'avoir de la saveur, d'être le sel de la terre, hein, littéralement, c'est de ça dont il est question, du sel. Et avoir du sel, pour ceux qui sont autour de nous, c'est donner quelque chose qui ne soit pas insipide, qui ne soit pas évident, qui ne soit pas quelque chose de trivial, dire « il faut, il y a qu'à », les solutions simples, où on n'écoute pas la situation dans laquelle se trouvent les autres, on apporte des solutions toutes faites. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais le responsable de je ne sais plus quel parti politique qui parlait en fait de la façon dont les militants allaient propager le message du parti en question. Et il constatait que aller parler du programme politique des uns et des autres apportait généralement n'était pas très bien reçu. Mais par contre, que parler de la raison pour laquelle on s'était engagé dans telle ou telle partie, là, ça permettait de toucher les gens et les gens étaient capables de répondre et de s'intéresser à ce moment-là aux raisons qui avaient fait que toi tu as choisi telle voie plutôt que telle autre. C'est intéressant de voir que même même le monde se rend compte que pour intéresser quelqu'un, c'est d'abord la vérité, c'est d'abord l'expérience et la réalité de ce que vit une personne. C'est d'abord ça qui touche et qui permet d'avoir de la saveur et d'être intéressant pour les autres. C'est notre propre expérience du Christ qui fait que nous avons de la saveur pour les autres. C'est parce que le Christ a transformé ma vie que je peux en parler à ceux qui sont autour de moi. Pas leur parler de théologie ou de grandes idées. Les grandes idées pourront venir et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, l'annonce et la proclamation de la bonne nouvelle, mais la saveur qui fait que une personne va nous écouter et va être touchée par ce que nous avons à dire, eh bien cette saveur, elle vient de notre relation à Dieu. De la saveur et de la grâce. Là aussi, j'enfonce une porte ouverte, mais nous ne sommes pas des juges. Quand nous rencontrons ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, c'est pas en les jugeant qu'on arrive à les toucher, mais en leur parlant de cet amour qui libère. La dénonciation du péché vient aussi. Mais, une fois de plus, dans notre rapport de tous les jours, c'est pas ça qui vient en premier. Cette saveur et cette grâce, cet amour qui nous a libérés. Je pense que la meilleure façon de parler de cette grâce, c'est de parler de la façon dont nous-mêmes nous avons reçu le pardon de Dieu. Quand j'ai compris que Dieu me pardonnait, que Dieu m'acceptait tel que j'étais, quand j'ai compris que Dieu effaçait mes fautes et mon péché, ça je peux le partager et je peux l'apporter à ceux qui sont autour de moi et qui ne connaissent pas ça. On a parlé donc de la prière qui nous transforme, qui transforme notre regard, cette prière de reconnaissance. On a parlé de cette prière qui nous permet d'entrer dans le plan de Dieu, qui intercède pour ceux qui annoncent, pour ceux qui proclament. On a parlé de cette prière qui nous aide à entrer nous-mêmes dans ce plan et dans ce chemin, où nous avons besoin de l'aide de Dieu pour voir comment je peux rencontrer celui qui est en face de moi et qui ne le connaît pas. Alors il faut prier. Je termine avec ce par quoi j'ai commencé. Il faut prier pour que tout ça devienne une réalité dans nos vies. Il faut prier pour ne pas être seul dans ce combat, seul dans cette marche avec Dieu. C'est la prière qui nous permet de mettre Dieu au centre de notre vie, qui permet à Dieu de nous donner cet élan et cette énergie qui permettront à son évangile, à sa bonne nouvelle, de grandir dans notre vie et puis dans le monde. Merci de m'avoir écouté.